France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité, des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et bien justement, aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir un événement sur Paris, ou plutôt sur l'histoire de Paris. Et cet événement, c'est la sortie d'un livre passionnant, très original, Paris retrouvé sur les traces d'un passé caché. C'est chez First Edition. 23 chapitres, 23 balades historiques. Vous n'irez plus place de la Bastille, sur les Champs-Élysées, à Montmartre ou au Carrousel du Louvre sans penser à ce livre signé Jean-Louis Maroux. Il est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Maroux. Alors, pourquoi ce livre sur l'histoire de certains lieux emblématiques de la capitale est-il si original? Quelle méthode de travail avez-vous mise au point pour découvrir tant d'histoires si peu connues? On veut tout savoir. Jean-Louis Maroux, je pensais que tout avait été écrit sur l'histoire de Paris, de ses quartiers, de ses rues, de ses immeubles, de ses lieux historiques. Mais il semble que c'est loin d'être le cas. Vous nous proposez, avec ce livre, une multitude d'histoires qui parfois partent d'une seule question. Alors aujourd'hui, on va en reprendre quelques-unes, pas toutes, hein, bien évidemment, on aurait 5 heures d'émission. Bien sûr, j'invite tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui aiment l'histoire de la capitale, je les invite à découvrir ce livre, à se plonger dans cet ouvrage. Alors, on va se demander aujourd'hui, par exemple, pourquoi la colonne de la Bastille est-elle posée sur un grand socle, le socle de marbre blanc? Pourquoi le carrousel du Louvre a-t-il un lien, finalement, avec la mort d'Henri II, figurez-vous? Et pourquoi le pont Marie se prénomme-t-il ainsi? Enfin, pourquoi porte-t-il ce peut-être prénom? Jean-Louis Maroux, votre passion pour l'histoire de Paris, elle vous a poussé il y a quelques années, je crois, à quitter votre métier d'origine. Vous étiez dans la presse, vous étiez
journaliste économique. Hein.
Ouais. Et vous étiez un passionné de Paris depuis longtemps.
Depuis
comment
longtemps,
ça a démarré cette histoire d'ailleurs avec vous?
Alors, ça a commencé assez simplement. En fait, un jour, je suis tombé dans des plans anciens.
Oui.
Vous voyez ces vieux plans de Paris. Alors, il y en a deux que je trouve absolument extraordinaire.
Mérian,
c'est le plan de Mérian et le plan de Turgot.
Oh, bah, c'est fascinant. Ça.
Et alors là, vous avez l'impression déjà de vous balader dans l'histoire, en fait. C'est assez extraordinaire. Donc voilà, j'y ai passé des heures en fait, à voyager dans les plans, comme ça, à regarder les pâtés de maison, à me dire « Ah oui, et aujourd'hui ça correspond à quoi ?»
Alors, ce qui est fantastique, d'abord on peut les voir sur Internet, hein, ces plans.
Tous, oui, bien sûr.
Il y a des bouquins qui ont été faits aussi assez détaillés. Il y en a un qui date, je crois, de 1615, c'est le plan de Mérian. Et Turgot, c'est 1730. Je me suis toujours demandé, en voyant ces plans comme vous, hein, j'ai trouvé ça fascinant, à quoi ils servaient? Est-ce qu'ils étaient pour tout le monde, public, ou est-ce qu'ils servaient pour l'administration?
Non, je pense qu'ils avaient une finalité plutôt administrative. En fait, personne dans le grand public, si je peux dire, avait accès à ce genre d'information.
Vous se dirigez dans Paris, il n'y avait pas encore des plans.
Surtout, si vous regardez l'original du plan de Turgot, ce sont des énormes volumes, en fait.
Ah oui, oui.
C'est, je ne sais plus, une dizaine de volumes qu'on peut acheter. Quelqu'un me disait récemment qu'il en avait hérité, d'ailleurs.
Ah oui, carrément.
Du livre. En fait, c'est vraiment un truc d'érudit, en fait, je pense, à l'origine. Maintenant, c'est devenu très grand public parce qu'on le trouve, comme vous le dites, sur Internet.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est quand on regarde, je crois, le plus ancien, donc c'est celui de Mérian, on s'aperçoit qu'à l'époque, d'abord, Paris, rive droite, était encerclé d'eau. Il y avait un canal qui permettait de protéger Paris. Ensuite, il y avait deux murailles. Il y en a deux sur la rive droite.
Ouais.
Enfin, il y a les vestiges d'une et puis ensuite.
Ouais.
Donc Paris était complètement encerclé d'une
entouré
muraille.
De murailles.
Entouré de murailles.
Il y a eu successivement comme ça plusieurs grosses enceintes. Hein.
Ouais. Et puis qui servaient bien sûr à protéger.
Celle de Charles V. Elle faisait 80 mètres de large. Vous imaginez deux fossés, deux ados de fossés.
C'est incroyable.
Un mur, des tours. C'est énorme, en fait.
Et alors, on imagine, il y avait des sorties, il y avait des entrées,
des
sorties.
Il y avait des grandes portes, dont on a toujours la mémoire, finalement. La porte Saint-Denis, la porte Saint-Martin, la porte Montmartre. Il n'y en a pas tant que ça, finalement.
Et après, il y a eu les barrières de l'octroi qui permettaient de payer les impôts.
Après, on a inventé un truc qui ferait pâlir les gilets jaunes aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
Qui est le mur des fermiers généraux, qui était un mur fiscal, en fait.
C'était à quelle époque, ça?
Alors, c'est très précisément 1786, c'est-à-dire 3 ans avant la Révolution. On dit même que ce mur a joué un petit rôle dans la colère des Parisiens, en fait.
Je crois qu'il y avait une quarantaine d'entrées tout autour de Paris, peut-être un peu moins.
Vraisemblablement. Je ne sais pas le chiffre exact, mais ça doit être ça, oui.
Et l'idée, c'était de faire payer les taxes.
À l'entrée de la ville.
Aux marchands, quoi.
Bah, toute marchandise qui rentrait dans la ville. Hein. Alors, ça pouvait être le paysan du coin ou le marchand, en fait. Ouais.
Voilà, c'est passionnant. Alors, je vais quand même préciser qu'il y a ce livre, Paris retrouvé sur les traces d'un passé caché chez First Edition, dans la collection Les dossiers interdits de l'histoire. Voilà, il n'y a rien d'interdit dans ce livre. Mais que vous ne.
Interdit, c'est au sens caché. Hein. C'est ah, oui. Caché, mais connu, etc.
Mais je vais préciser également que vous proposez des balades dans Paris régulièrement. Voilà, on vous accompagne et vous racontez un peu selon le quartier. Tout est sur un site internet très très bien fourni justement où il y a tous vos rendez-vous, toutes les balades que vous proposez, puis plein de choses à découvrir, des petits films également, des petites vidéos. Et ce site c'est ça vaut le détour, cvld.fr. Voilà. Et ça aussi ça, c'est votre quotidien maintenant, vous ne faites que ça.
Bon, oui, enfin je fais surtout des balades à vrai dire, je crée des balades.
Et votre méthode, vous posez des questions et souvent c'est... Votre méthode, ça, j'ai l'impression que ça part souvent d'un mot inscrit sur une...
La trace.
Ouais, voilà, ce que vous appelez
la
trace.
Alors les traces, ça peut être des tas de choses. Hein. Ça peut être un pan de mur insolite, comme à Saint-Paul, où il y a un bout de clocher d'église qui est resté là. Ça peut être une trace virtuelle, un nom. Vous avez parlé du carrousel tout à l'heure, on en reparlera. Ouais. Pourquoi le carrousel, pourquoi pas le manège, et pourquoi pas, voilà. Ça peut être des tas de choses comme ça, qui sont visibles, apparentes dans la ville, qu'on a dans l'oreille.
Une inscription.
Une inscription, sur... etc.
Comme Bouglione.
Bouglione, voilà, Bouglione. Vous avez un vieil immeuble, un immeuble des années 70, je dis vieux parce qu'il n'est pas très beau, au coin de la rue des Martyrs et du boulevard Rochechouart. Cet immeuble des années 70 a une grande inscription dorée, le Bouglione. Je dis pourquoi le Bouglione et pourquoi pas le Pinder. Et en fait, finalement, en creusant, c'est ma méthode en fait, en cherchant, on s'aperçoit que ce vieil immeuble a été créé sur un ancien cirque en dur qui ressemblait étrangement au cirque d'hiver, en fait.
Le Medrano.
Il s'appelait Fernando au départ, puis Medrano, puis Bouglione. Il a changé de nom 4 ou 5 fois.
23 balades, 23 traces, 23 histoires passionnantes pour regarder la capitale du haut de sa grande histoire, mais aussi à la loupe dans des endroits inédits. C'est ce que vous découvrirez dans Paris retrouvé. Aux éditions First Edition. On va s'intéresser par exemple à la colonne de la Bastille. Tout le monde la connaît, hein. Tout le monde connaît la place de la Bastille. Pourquoi décide-t-on d'élever ce monument où se trouvait la fameuse prison? Qui sont ces noms inscrits sur la colonne? Pourquoi est-elle posée sur ce socle-là de marbre blanc? Vous en saurez plus dans un instant.
France Bleu, Paris. France Bleu.
Montre ton rire ou ton chagrin. cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a, elle a. Ce ne sait quoi. Que l'autre n'en pas. Qui nous met dans un drôle d'état.
Là et là, France Gall sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
C'est un passionné de la capitale et de son histoire, notre invité aujourd'hui. Jean-Louis Maroux est l'auteur de Paris retrouvé, sur les traces d'un passé caché chez First Edition. Enfin, pas si caché que cela d'ailleurs, puisqu'en se posant pas mal de questions sur des lieux que l'on connaît tous, il a réussi, en menant de véritables enquêtes, à trouver les réponses. Et il les partage dans ce livre et un petit peu avec nous aujourd'hui. Jean-Louis Maroux, on connaît tous la Bastille, la place de la Bastille, l'Opéra Bastille, le métro Bastille, le port de l'Arsenal en bas, le canal de l'Ourcq en dessous, la colonne de la Bastille bien sûr. Et la prison, bref, on connaît tout ça. La prise de la Bastille, la destruction de la prison, on a tous appris à ça à l'école. Mais quand est-ce qu'on décide d'en faire une place et d'ériger ce monument ?
Alors la place, ça va très vite. Hein. Au bout de deux mois, après le 14 juillet, au bout de deux mois, on a comblé la place, on a démoli la Bastille, pierre par pierre, on a comblé la place. Plus compliqué que mettre au milieu. Mmh. Alors assez vite, hein, vers 1793, en fait pour l'anniversaire de la chute de la monarchie, le 10 août 1793, le peintre David que vous connaissez, mm-hmm. qui était chargé des grands événements révolutionnaires, bah, qui faisait de la mise en scène,
heureusement qu'il était là, oui.
a eu l'idée de provisoirement créer une fontaine. Mm-hmm. Il s'appelait la fontaine de la régénération. C'est pas joli ça. C'est une allusion.
C'était à la mode de faire des fontaines à l'époque.
Pas tant que ça, finalement. Parce que quand on regarde bien, il n'y avait pas tant que ça au milieu des places à Paris. Hein.
D'accord.
Voilà, donc il fait cette totalement provisoire. Mm-hmm. D'ailleurs, elle va tomber assez vite. Et la question va être posée, finalement, j'allais dire, de régime en régime, de savoir qu'est-ce qu'on met au milieu de cette place. Et finalement, il faudra attendre Napoléon Ier pour que l'idée de la fontaine rejaillisse, si je peux dire, ressorte.
Le mot, ouais.
Et en fait, ça est en lien avec la création du canal.
Ah, il n'existait pas
savez,
encore, le canal de l'Ourcq ?
Il a été créé en 1808. En
ah
fait.
Oui, exact.
Alors, le projet, il date du XVIIe siècle, hein, mais la réalisation a été quand même extrêmement complexe. Hein. Arriver à faire venir l'eau d'une petite rivière du fin fond de la Marne, par là. Donc, le canal est créé en 1808. Et c'est à ce moment-là que Napoléon décide de créer au milieu de la place une fontaine. Toujours l'idée de la fontaine. Alors, c'est évidemment une manière d'utiliser l'eau du canal,
bien sûr,
et de faire un lien avec le canal. Alors, cette fontaine, elle devait abriter en son milieu un éléphant géant de 15 mètres de haut. Alors, c'est lui qui a commencé à poser quelques problèmes parce que l'empereur qui voulait faire de cet éléphant un symbole de la conquête, en fait. Hein, c'est la référence à Alexandre, Hannibal, les grands conquérants. Bah, il trouvait que l'éléphant qu'on lui proposait n'avait jamais la gueule rêvée, si je peux dire. Donc il a retoqué la copie des designers et des architectes au moins 15 fois. Puis finalement, on a dessiné un éléphant géant en bronze de 15 mètres de haut, harnaché d'or, une petite merveille. Il y a un très joli bouquin d'ailleurs qui est paru il n'y a pas longtemps, qui montre en image de synthèse ce qu'aurait été l'éléphant. Et là, je vais vous dire, moi personnellement, j'ai un regret, parce qu'il était très beau, cet éléphant.
D'accord.
Bon, mais voilà, l'empereur est tombé et on n'a jamais...
Il n'a jamais été construit, l'éléphant.
On n'a jamais construit l'éléphant. En revanche, on a construit la base de la fontaine, c'est-à-dire qu'on a construit le bassin.
C'est ça qu'on voit.
Un joli bassin en marbre de Carrare, blanc.
D'accord.
qu'on peut toujours admirer au pied de la fameuse colonne.
Ouais. Et la colonne, après ?
Alors, la colonne, bah, la colonne. Alors, vous imaginez, Napoléon tombe, on ne fait pas l'éléphant, évidemment, on oublie l'empereur.
Ouais.
On ne sait toujours pas comment on peut avoir un symbole de la Révolution au milieu de tout ça. Et puis, arrive au beau milieu de la Restauration, les événements de juillet 1830. On ne se pose plus de questions. Louis-Philippe, qui est arrivé au pouvoir après cette insurrection, il faut savoir que cette insurrection a fait 504 morts.
Oui.
C'est quand même un événement traumatisant pour les Parisiens.
Vraie révolte.
Curieusement, cette petite révolution a accouché d'une souris, si je peux dire, puisqu'on est passé d'un Bourbon à un Orléans. Et l'Orléans, il ne savait plus trop bien comment se dépatouiller avec cette histoire. Et donc, il a eu l'idée de créer une colonne en bronze sur laquelle on mettrait les noms des 504...
Des victimes.
Des 504
de cette
victimes.
Révolution de 1830.
Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer cette colonne. D'ailleurs, c'est écrit en gros dessus, hein, 27, 28, 29 juillet 1830.
Oh, voilà. Dorée, et là, c'est tous les noms des victimes qui sont sur cette colonne.
Ce qui est évidemment intriguant, quand vous la regardez bien, cette colonne, c'est sa base, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une autre colonne, c'est de la place Vendôme.
Mm-hmm.
Elle est posée directement sur le
sur
sol.
Sur le socle, hein, bien sûr.
Bronze, voilà.
Ouais.
Celle-ci est là. Un premier niveau de marbre blanc, une espèce de carré blanc avec des inscriptions, des plaques de bronze. Et puis, au-dessus, vous avez la colonne. Donc, une espèce d'empilement comme ça. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc blanc ou pas ? C'est très beau. Hein. Quand on regarde bien, c'est vraiment très beau. Il y a des petits lions sculptés dont on peut imaginer d'ailleurs qu'ils auraient craché de l'eau.
Bien sûr.
Donc, c'est vraiment une logique de bassin. Et c'est ça qui m'a guidé. C'est ça la trace de départ, en fait.
Et au-dessus, le génie de la liberté.
Alors, le génie de la liberté, qui est doré, qui est une espèce de figure assez ambiguë, en fait. Pas ambiguë sur le plan sexuel, mais ambiguë sur le plan de la symbolique.
Hein. Ouais.
Louis-Philippe était quand même un peu mal à l'aise avec ses histoires révolutionnaires. C'est un roi, hein, quand même. C'est le roi des Français, mais c'est un roi quand même. Donc, il cherche un symbole qui ne soit pas totalement républicain, si je peux dire. Il n'est pas allé chercher cette figure classique de la révolutionnaire.
Non,
je vais chercher
un petit bonhomme,
qui est le génie de la liberté avec sa jolie étoile, en fait.
C'est un des 23 chapitres passionnants de ce livre, hein. Pas rien retrouvé, mais il y a plein de choses à savoir, évidemment, quand vous le lirez. Jean-Louis Marou, on va poursuivre notre balade dans Paris et dans l'histoire de la capitale. On est alors donc dans un quartier révolutionnaire, on va dire, et on va se rendre dans un lieu plutôt royal, un lieu de pouvoir devenu le plus beau musée du monde, le Louvre. Certes, c'est un musée, mais c'est aussi une galerie marchande qu'on connaît tous, le Carrousel du Louvre. Alors pourquoi ce nom? Quel rapport avec le manège de chevaux de bois ou alors un spectacle d'équitation, hein, c'est ça l'origine? Vous le saurez dans un instant, ce sera tout de suite après notre rendez-vous avec Muriel Jourdan que l'on retrouve tous les jours à cette heure-là. Alors elle se promène dans toute la région et elle nous ouvre des portes interdites. Parfois, elle va dans les coulisses d'un spectacle, c'est le cas aujourd'hui, les coulisses d'un spectacle d'un des plus célèbres illusionnistes. Accès privé, c'est juste après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun.
got underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone.
Il s'appelle George Ezra, il chantait Shotgun, accès privé juste après ça.
12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu. Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu.
Passage en Normandie avant de se consacrer à la Ligue des Champions demain à 17h pour la 27e journée de Ligue 1. Le PSG défie Caen, bien mal en point en championnat.
France Bleu, supporter du PSG.
France Bleu et Détour en France vous invitent à la découverte des régions et de leur patrimoine. Monuments, villes et villages, paysages d'exception, artisanat, gastronomie et traditions. Pour organiser vos séjours, apprendre et explorer une région à votre rythme, retrouvez dans Détour en France tous les circuits, balades, bonnes adresses et rendez-vous insolites et gourmands. Ce mois-ci, dans Détour en France, la Provence, de Toulon au Verdon, en passant par les Îles d'Or, les villages du Massif des Maures, Cannes et les sentiers de l'Esterel. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
France Bleu Paris.
France Bleu.
C'est promis, hein, dans un instant vous saurez pourquoi le carrousel du Louvre s'appelle le carrousel du Louvre. Mais tout de suite c'est accès privé avec Muriel Giordan qui nous emmène à la rencontre du maître de l'illusion aujourd'hui, Luc Langevin. C'est un Canadien, il est bientôt au Casino de Paris et il se produira précisément du 21 au 31 mars prochain au Casino de Paris. Et Muriel a pu le rencontrer lors d'un passage à Paris dans les coulisses.
Oui, j'ai suivi Luc Langevin jusqu'à son hôtel pour qu'il nous raconte un peu le dessous des cartes. Et je l'ai trouvé parce qu'il est en promo en ce moment à Paris. Je l'ai suivi jusqu'au bar. Luc, vous êtes là, vous êtes un peu le maître des tours de passe-passe.
C'est, si on veut, oui, on peut voir ça comme ça.
Vous qui nous écoutez, vous ne connaissez peut-être pas Luc Langevin, mais vous dites, mais si, ça me dit quelque chose. Mais oui, c'est le mec qui ne va pas faire apparaître un des lapins dans un chapeau, à l'ancienne, pas du tout. Mais vous êtes plutôt dans des tours où la science a une place majeure.
Mmh. Voilà, en fait, j'essaie de développer des illusions basées sur des phénomènes scientifiques. Donc, j'ai une formation de scientifique, je me suis rendu jusqu'au doctorat en optique. Et j'utilise tout ce bagage scientifique justement pour faire rêver les gens, pour créer des illusions qui transportent les gens, qui vont parfois nous émouvoir, qui vont se faire se questionner. On va toujours se demander, un peu comme dans n'importe quel tour de magie, comment il peut faire ça. Et donc voilà, je fais ça depuis professionnellement depuis 10-12 ans maintenant, et j'adore mon métier.
On va se mettre dans l'ambiance, on va mettre ce morceau que vous aimez bien, The Scientist de Coldplay.
Oui, tout à fait. Je trouve ça décrit bien mon univers, je dirais, oui.
Est-ce que là, tout de suite, à cette table de bar, vous pouvez me faire un petit tour avec, par exemple, ce qu'on a sur la table, c'est-à-dire pas grand-chose? Moi, j'ai mon portefeuille, par exemple, j'ai quelques bagues.
D'accord. Ben, est-ce que vous avez un billet de banque, peut-être?
Ah ben, je vais regarder, oui, je pense. Ah ben oui, 10 euros.
Parfait. Je vais vous l'emprunter. Moi, j'ai un objet encore plus banal, c'est un stick, un baume à lèvres. Ouais. Mais vous savez, Muriel... Tout ce qui nous entoure est fait d'atomes, de particules, et ces atomes sont majoritairement vides. Donc si on pouvait aligner les portions solides des atomes d'un objet avec les portions vides des atomes d'un autre objet, les deux objets pourraient passer un à travers l'autre. Vous allez voir ce que je veux dire. Je prends votre billet, et vous savez, un billet de banque, c'est un objet qui est très mince. Mais malgré tout, c'est un objet qui est solide. D'accord? Je vais me placer juste ici, tout comme...
J'observe tout, hein. Je regarde, oui. Je n'en perds pas une miette, je veux comprendre.
Regardez, si je frotte un peu le stick contre le billet, regardez ce qui se produit. Tout doucement, les objets passent un à travers l'autre, comme par magie. Vous voyez, le stick est vraiment à travers le billet.
Oui, alors effectivement, c'est à travers.
Ils sont complètement intacts, autant le stick que le billet de 10 euros, que vous pouvez vérifier d'ailleurs.
Et ça vous arrive d'expliquer vos tours?
C'est très rare. J'aime parfois lever le voile sur certaines techniques qu'on utilise, le fait de détourner l'attention, d'exploiter certaines failles du cerveau humain, parce que je trouve que c'est aussi intéressant que les tours eux-mêmes. Mais sinon, non, je garde le secret, puisque c'est ce qui permet de faire rêver les gens.
On observe souvent vos mains parce que c'est peut-être cette zone-là qui est la plus importante, non?
Oui, on dit que la main est plus vite que l'œil, c'est l'outil principal des magiciens, je dirais. Donc effectivement, il faut ne jamais quitter les mains du magicien, mais les magiciens savent détourner votre attention ailleurs.
Donc chez vous, est-ce qu'on peut s'attendre à trouver tout un tas d'objets en tout genre, même un petit endroit où vous concentrez tout, où c'est le désordre total?
Tout à fait, vous parlez de mon bureau, là, je le vois quand vous le décriviez. C'est bizarre parce que c'est rempli d'objets parfois banal, parce que j'aime faire l'extraordinaire avec l'ordinaire. Vous voyez, un numéro qui a un billet, puis un stick, c'est... Donc, dans mon bureau, il y a plein de... Il y a des cartes, des dés, des élastiques, des chevalets, des... Bon, plein d'accessoires comme ça, et c'est mon antre, c'est là où je crée, où je teste, où je fabrique des prototypes.
Je vous conseille de réserver, hein, parce que ça cartonne. Luc Langevin, du 21 au 31 mars, et c'est au Casino de Paris.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi 36, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on se balade dans un livre et dans Paris, dans l'histoire de Paris, grâce à ce livre Paris Retrouvé chez First Edition. 23 balades dans 23 quartiers ou sites célèbres qui permettent aussi de réviser un petit peu l'histoire de France, parce que, bah oui, c'est la capitale. Et nous sommes avec l'auteur de ce livre, Jean-Louis Maroux. Jean-Louis Maroux, vos recherches, elles débutent souvent, donc je le disais tout à l'heure, sur le nom d'un lieu, sur une plaque, sur le nom. Et tout ça, ça vous mène dans de véritables aventures où on croise beaucoup de nos personnages historique. On était tout à l'heure à la Bastille. Allez, nous voici au Carrousel du Louvre. On connaît tous la Galerie Marchande, hein, on connaît tous le Louvre, bien sûr. Pourquoi ce terme de carrousel? Et je crois que c'est un petit peu à cause ou grâce au décès d'un roi,
alors,
Henri II.
Évidemment, c'est un peu intriguant au départ. Hein. On se dit carrousel, ça évoque des tas de choses. Ça évoque surtout le cheval.
C'est le cheval.
Les quadrilles équestres, les quadrilles militaires et même les chevaux qui tournent pour moudre le grain, par exemple.
Hein. Ou les manèges,
tout simplement, les chevaux de bois. Et en fait, c'est ça qui m'a intrigué au départ. Je me suis dit, mais finalement, quel est le lien entre ce lieu qui se trouve entre le Louvre et les Tuileries et un manège équestre? Alors, c'est d'autant plus rigolo maintenant qu'il y a carrément le centre commercial dessous qui s'appelle le Carrousel du Louvre. Mais pourquoi le Carrousel du Louvre?
Il n'y a pas de chevaux, hein, voilà. Ça c'est sûr.
Et donc, en déroulant le fil, je me suis rendu compte qu'en fait, tout était parti, effectivement, de la mort d'Henri II en juin 1559. Il était de tradition à cette époque-là d'organiser des grandes joutes, enfin des tournois, des chevaliers au Moyen-Âge. La tradition, donc, en 1559, la tradition se perpétuait en fait. Manque de chance, comme vous le savez sans doute, Henri II,
Paf, il se prend une
autour
lance dans
d'une confrontation, s'est pris une lance dans l'œil en fait. Et donc il est mort au bout de 10 jours dans d'atroces souffrances.
Ouais, il paraît,
Alors la première punition, si je peux dire, c'est que la reine... Catherine de Médicis, son épouse, s'est mise à poursuivre le responsable de cette mort. Mais surtout, on a immédiatement interdit les tournois.
D'accord.
Alors ça posait un sérieux problème, puisque le tournoi était l'emblème, si je peux dire, enfin le symbole de la chevalerie. Or la chevalerie, c'est quand même la base de l'aristocratie. Et donc, il fallait trouver un moyen de poursuivre cette tradition, mais de manière non violente, si je peux dire. Et donc, est apparue l'idée d'une espèce de grand spectacle équestre qui reprenait toutes les traditions du cheval, les jeux, etc., mais sans plus
bataille,
de tournoi, sans bataille, etc.
Ouais,
donc on est passé à un niveau symbolique, en fait. Ouais, ouais. Et on a appelé cet exercice le grand carrousel, en fait.
D'accord.
Le premier a lieu pour les fiançailles de Louis XIII, en fait. Et on lui donne comme théâtre l'actuelle place des Vosges qui s'appelait Place Royale, qui est un lieu magnifique.
Qui
a été créé par Henri IV, quand Henri IV le pauvre n'a pas eu le temps d'inaugurer. Donc pour les fiançailles de Louis XIII en 1612, on organise un grand carrousel sur la place des Vosges. Ensuite, il faudra attendre un grand moment. En fait, il faudra attendre le début du règne suivant, c'est-à-dire celui de
Louis XIV.
Du grand Louis XIV, pour qu'apparaisse de nouveau cette manifestation du carrousel. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, on a démoli la muraille de Charles V, une énorme muraille qui faisait 80 mètres de large, entre le Louvre et les Tuileries. Donc, on a créé une belle esplanade, en fait.
D'accord.
Et donc, on a profité de cette esplanade pour organiser un grand carrousel. Et cette fois-ci, donc c'est en 1612, à l'occasion de la naissance du dauphin, le premier enfant de Louis XIV. Alors, évidemment, Louis XIV est tout jeune à l'époque. Il vient juste d'affirmer son règne personnel. On a commencé à lui créer cette belle légende
du roi soleil
qui danse, et puis du plus grand roi du monde, carrément.
Ouais, ouais.
Et donc, en fait, il s'agissait de profiter de cet événement pour rabaisser l'aristocratie et la mettre au pas. C'est-à-dire qu'on a dit, hop, on réquisitionne tout le monde pour le grand carrousel.
Ouais.
Alors les aristocrates étaient obligés de s'y plier.
Ils se sont déguisés, ils ont participé ?
Et oui, ils se sont déguisés. Alors, il leur a imposé... lui était déguisé en empereur romain, il dominait tout le monde sur son grand cheval. Et puis,
c'était public ?
Oui, il y avait,
tous les Parisiens,
il y avait 15 000 spectateurs.
Ouf.
C'est quand même incroyable.
Ça fait un Bercy.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a créé des gradins devant les Tuileries. 15 000 spectateurs, c'est énorme.
Et alors, du coup, la place a gardé ce nom.
Voilà.
D'accord.
Alors, c'est extraordinaire. D'accord. C'est-à-dire que, bon, il faut dire qu'on avait mis le paquet, si je peux dire. C'était un très grand événement qui a duré 2 jours. Et donc, ça a dû marquer les esprits. Il y a dû avoir des gravures et des toiles qui représentent cet événement. Et il est resté, en fait.
La place du carrousel, voilà. Quand vous irez, vous penserez à ça. On va longer la Seine et en remontant vers le Pont Neuf, passer devant l'île de la Cité, puis un petit peu plus loin après l'hôtel de ville. On va passer de l'autre côté de Paris, vous savez, rive gauche, pour en empruntant le pont Marie. Pourquoi Marie ? Pourquoi ce pont s'appelle-t-il Marie ? On en parle après ça.
France Bleu, Paris. France Bleu.
We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about to be solved? We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called, but man, you fooled. I'll be ready
Are you ready? It's the start of us waking up. Come on. Are you ready? I'll be ready.
What about us, Pink, sur France Bleu Paris.
France Bleu.
Salut tout le monde.
Chaque région a ses spécialités, tout en leur France Bleu, une heure en France.
Nous fêtons les 50 ans du célèbre marché de Rungis. Nous sommes à la manufacture du Grenat dans les Pyrénées-Orientales et on termine avec une visite du musée du train en Ardèche.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h.
France Bleu Paris.
Suite de France Bleu Paris Découverte pour découvrir ce livre passionnant sur l'histoire de Paris. Paris retrouvé chez First Edition. Nous sommes avec son auteur Jean-Louis Maroux, que vous aurez peut-être l'occasion de suivre dans ses balades historiques dans la capitale. Toutes les infos et propositions de balades sont sur le site cvld.fr. Ça vaut le détour à Paris. Jean-Louis Maroux, on est maintenant rive droite, quai de l'Hôtel de Ville. On veut passer de l'autre côté, sur l'île Saint-Louis, un petit peu plus loin. On franchit la Seine grâce au pont Marie. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi, avant de savoir pourquoi ça s'appelait Marie, pourquoi il y avait des emplacements qu'on voit sur les arches,
les becs de pont.
Voilà, exactement. Pourquoi il y a des emplacements où normalement on pourrait mettre une très jolie statue et pourquoi il n'y en a pas? Vous savez ça pourquoi ou pas?
Alors, les niches sont vides.
Oui, les niches, voilà, c'est ce que je cherchais.
Les niches sont vides.
Point.
On ne sait pas pourquoi.
Bon, ben voilà.
Le pont est sublime.
Ah oui, c'est vrai.
Hein, c'est un des plus beaux de Paris.
Bien
en fait.
Robuste, bien
joli
costaud.
Pont en pierre avec un beau dos d'âne.
Bon, enfin, moi, magnifique. Je préfère le pont neuf, mais bon, ça, c'est tous les goûts sont dans la nature.
Oui.
mais alors, l'idée, c'est Marie, Vierge
alors,
Marie.
Les niches font immédiatement, irrésistiblement penser à la Sainte Vierge. C'est-à-dire qu'on se dit, dans le fond, peut-être qu'à l'origine, on a eu l'idée de mettre la Vierge Marie dans les niches.
Bah, voilà.
Le hic, c'est que si véritablement ce pont était un hommage à la Mère de Jésus, il se serait peut-être appelé pont Sainte-Marie.
C'est vrai.
Ou pont de la Vierge Marie, éventuellement, ou pont de la Vierge, je ne sais
pas. Surtout à l'époque.
Pont Marie, c'est un peu cavalier, quand même, dans la chrétienté du XVIIe siècle. Car c'est un pont du XVIIe siècle, en fait. Il est en lien, comme vous le savez, avec l'île Saint-Louis. Il a été construit au même moment, en fait, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle.
Où on avait réuni deux îles pour former cette île merveilleuse aujourd'hui.
Le chantier, en fait. Deux îlots bas qu'on a réunis, qu'on a encastrés dans des quais très hauts. Si vous regardez la hauteur des quais, c'est impressionnant, c'est plus de deux étages. Et puis on a remblayé. Donc c'est un énorme projet,
c'est fou.
Cette île Saint-Louis, qui a été lancée sous Henri IV. Alors Henri IV, comme vous le savez, il est mort un peu prématurément, assassiné.
Oui.
Et donc, on peut effectivement rapidement aussi faire le lien avec sa reine, Marie de Médicis.
Tout à fait.
Peut-être dans le fond que ce pont Marie, c'est un hommage à la reine Marie. Ça paraît assez logique, puisque finalement ce pont a été construit sous sa régence. Enfin, ce pont et cette île ont été aménagés sous sa régence, en fait. Et puis finalement, l'idée n'est pas improbable, puisque quand on regarde bien... Vous regardez le quai d'Anjou qui prolonge le pont, qui est absolument sublime.
Quai d'Anjou.
Moi, je passe mon temps à regarder
ces
magnifiques façades d'hôtels particuliers.
Bon, c'est d'un luxe.
Construit par Levaux, on ne s'en lasse pas. Et ça situe bien le décor donc dans ce XVIIe siècle absolument magnifique. Donc effectivement, on peut imaginer que ce pont Marie est un hommage à la reine Marie. D'ailleurs, si vous regardez bien, ce qu'on fait rarement sur ce pont, il y a une petite plaque discrète qui est caché sur un des parapets, en fait. On nous explique que ce pont a été inauguré en 1614 par la reine Marie. Enfin, la première pierre a été posée en présence de la reine Marie et de son fils, Louis XIII, qui était tout jeune à l'époque. Et donc, le lien se fait assez naturellement entre le pont et ce nom de Marie. Sauf que si vous regardez bien les petites mentions sur la plaque, vous découvrez que ce pont a été construit par un certain Christophe Marie.
C'est son nom de famille.
C'est le nom de l'entrepreneur. Et c'est assez touchant d'une certaine manière cet entrepreneur a laissé son nom au pont, en fait.
Ben c'est bien parce que du coup, vous lui rendez hommage en ayant fait ses recherches.
Et je suis heureux de lui rendre hommage, en fait.
Ben vous en saurez beaucoup plus parce qu'évidemment, lorsqu'on lit ce chapitre sur le pont Marie, on lit également par la suite l'histoire de cette île qui est absolument merveilleuse, avec des bâtiments merveilleux. C'était un peu la grande bourgeoisie de l'époque qui s'est fait construire là, ces bâtiments.
Nouveau riche.
Et vous en connaîtrez beaucoup plus sur ce pont et sur tous ces endroits que vous avez visités. Et voilà, ce livre est passionnant, je le rappelle, chez First Edition. Ça s'appelle « Paris retrouvé sur les traces d'un passé caché ». Je vous conseille d'aller visiter également le site de Jean-Louis Marou, cvld.fr. Merci beaucoup, monsieur Marou, d'être passé, d'être un passionné de Paris, de nous faire partager votre passion et d'être passé par ici aujourd'hui.
Merci à vous, Laurent.
À très bientôt.
France Bleu Paris. France Bleu.